Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Radio Emma et nous sommes le jeudi 21 septembre 2023 avec Serena de l'après-midi en studio. Aujourd'hui il y a
Gaël, éducateur au relais,
Tristan,
Élise.
Oui, et ben bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver après cet été caniculaire. J'espère que vous avez passé un bon été d'ailleurs.
Ouais.
Actif.
Je sais même plus ce que j'ai fait.
C'est tellement loin maintenant. Ok. Et toi, Élise?
Ouais, ça s'est bien passé, on va dire.
Ah, ça sent l'enrobage où il y a une partie qui s'est bien passée et une autre un peu moins.
Ouais, un peu.
Mm-hmm. Bon. Bon, je voulais savoir en fait comment vous vivez un petit peu la frénésie qui se passe à Marseille en ce moment. Avec tous les événements, c'est sympa, on a l'impression que tout le monde a décidé de tout faire à Marseille. La Coupe du foot, la Coupe de rugby, le pape. Bientôt, on va avoir, je ne sais pas moi, Beyoncé. Ah non, c'est fait. est-ce que vous le sentez, vous? Est-ce que les rues, elles sont fermées? Est-ce que les transports, ils ont changé? Enfin, est-ce que vous sentez hein, une différence?
Moi, non.
C'est vrai, ça n'a aucun impact?
Ouais, il y a juste les drapeaux sur les bus qui me perturbent.
Ah oui, c'est vrai, ça, il y a des drapeaux maintenant sur les bus.
Ouais, ils mettent ça pour la Coupe de rugby.
Mais pourquoi ça te perturbe?
Je sais pas, ça me plaît pas.
Attends, t'es beaucoup trop loin là du micro.
Ça me plaît pas.
Ouais, mais qu'est-ce qui te plaît pas?
Je sais pas, les drapeaux sur le bus.
Enfin, ça te dérange de voir ce truc flotter?
Ouais. J'ai l'impression que ça n'a pas sa place sur un bus. Un drapeau sur un bus.
Mmh. Bon. En fait, ça rend le truc festif, voire un peu officiel. Et en même temps, ça n'a rien à faire sur un bus, en fait.
Ouais, peut-être, je sais pas. Ça me perturbe.
Ouais.
Il y a un truc qui m'a perturbé aussi, c'est dans le métro, il y a une affiche de la Coupe du Monde de rugby.
Rapproche-toi encore, s'il te plaît.
Il y a une affiche de la Coupe du Monde de rugby dans le métro. Et après, c'est mon avis, hein, mais moi, il y a un drapeau LGBT en plein milieu. Et je comprends pas pourquoi il y a ça.
Parce que c'est inclusif.
Bah, mais pourquoi ils mettent ça?
Parce qu'on se bat pour l'instant pour que dans le sport, toutes les tendances puissent être acceptées. Parce qu'il y a eu un énorme bashing des personnes qui étaient un peu ouvertes sur leur homosexualité dans le sport et qui se sont fait ou tourner le dos par les sponsors, ou frapper par leurs collègues, ou huer par le public. Et toute l'idée, alors que les valeurs du sport, c'est de justement véhiculer l'entraide, le soutien, le travail, la camaraderie, le fair play. C'est vraiment des valeurs du sport qui sont super importantes et ancrées dans ce que ça veut dire le sport. Et en fait, ils essayent de faire un travail en communication pour que toutes ces valeurs-là, elles soient le plus propagées, j'ai envie de dire, donc le plus envoyées à tout le monde. Et pour ça, ça passe par de la représentation.
Tu parles de ce qu'il y a au Prado, là, quand à la station du Prado
Je sais plus, dans le métro.
Oui, sur les affiches.
La première station, quand on part d'ici, de Dromel, la grande station, avec tous les gens qui font du rugby, ils sont tous... Mais en tout cas, moi, ça me fait penser que ça arrive après la Coupe du Monde de foot au Qatar. Je pense que ça marque aussi un peu le...
Tu te rappelles qu'ils avaient demandé à ce qu'il y ait des brassards
non.
LGBT sur les bras des joueurs
non.
Au Qatar. Il y en a qui n'ont pas voulu le porter, il y en a qui ont voulu le porter en soutien. Enfin bref, ça a été une grosse histoire.
Ils n'avaient pas suivi la Coupe du Monde au Qatar. Quoi, l'événement, hein, je ne parle pas des matchs, Élise.
Je regarde la finale aussi.
Ah, le match, quand même, toi. Pas mal. Mm-hmm. Mais est-ce que ça te parle ce que je viens de te dire?
Moi, oui, en tout cas.
Ouais.
Oui.
Parce que, est-ce que t'es d'accord avec le fait qu'on véhicule justement ça et qu'on inclut plus les gens avec notamment des représentations
Oui.
Tu sais, dans le sport, en fait, il y a eu vachement de racisme et d'homophobie. Enfin, tout ce qui est en fait vachement lié à la peur de la différence, de ce qu'on connaît pas, quoi. Donc voilà, racisme, c'est typiquement ça, homophobie, c'est typiquement ça. Je pense qu'il y a encore d'autres phobies qui sont exprimées dans le sport. Mais en tout cas, celle-là, ça fait partie des choses qu'il faut combattre. Et que du coup, les gens se mettent à combattre. Tu sais, quand tu as des joueurs de foot noirs qui se font huer par le public, qui miment des singes, dès qu'un joueur noir entre sur le terrain.
Qui lance des bananes sur
le stade. Qui leur lance des bananes.
C'est pas, ouais. C'est pas très respectueux, mais bon.
C'est pas très cool.
Ouais.
Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est genre horrible. Tu vois, de faire ça à quelqu'un, c'est juste horrible. Et ça montre pour moi beaucoup plus la bêtise de ceux qui le font qu'autre chose, quoi. Mais pour autant, ben, il faut que les représentants du sport réagissent et éduquent, s'il faut. Et du coup, voilà. Pourquoi toi, ça t'a dérangé de le voir, le drapeau LGBT?
Bah non, parce que je comprenais pas pourquoi il est là. Maintenant que tu m'as expliqué, je comprends, mais genre, je comprenais pas pourquoi il y avait un drapeau LGBT sur un truc de
Bien
rugby.
sûr, bien sûr. C'était pas évident pour toi
Ouais, non.
de se dire qu'est-ce que ça fait là, quoi.
Ouais, je comprenais pas le rapport.
Bien sûr, bien sûr. Ben voilà, c'est l'idée. C'est qu'en fait, il y a énormément, énormément de rejets et qu'il faut au contraire beaucoup plus d'inclusion. Et ça passe par. C'est un peu comme quand on parlait des affiches. Je sais pas si on en avait discuté avec vous. Il y avait des affiches à un moment donné pour une campagne sur. Je sais plus, un truc qui avait rien à voir. Ou alors pour Mythique, je sais plus, bref. Et c'était des couples homo qui s'embrassaient en photo. Tu sais, devant les bus, devant les. Enfin, sur les panneaux publicitaires en général. Et il y avait plein de gens qui étaient choqués. Vous vous rappelez pas de cette campagne? Elle a marqué plein de gens.
Non.
On en a parlé ici, alors avec un autre groupe en tout cas. Et dans l'idée, en fait, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de justement de voir deux hommes ou deux femmes s'embrasser pour une pub sur un truc, je sais plus. Mettons que ce soit pour un truc de rencontre, déjà.
Bah moi je me dis c'est bien, ça fait de l'inclusivité parce qu'avant il n'y en avait jamais. Et enfin ça montre un peu que les mentalités elles changent.
Non mais t'es
Non
sens-toi
mais
libre hein, si ça te choque ou.
ouais non moi je suis moi ça me dérange pas en soi mais faut pas qu'après ils en fassent trop parce qu'après ça va leur retomber dessus
Tu sais, en faisant
en
même un
fait
petit peu, ça leur retombe déjà dessus, hein.
oui voilà mais le problème c'est que c'est bien d'accord pour ces gens-là mais s'ils en font trop après ça risque de d'être encore pire
Ouais.
et je veux bien qu'ils mènent leur combat pour contre ça tu vois pour soutenir Ben leur genre, tu vois, mais ben après, moi ça me dérange pas, tu vois, les homosexuels, tout ça, moi je m'en fous, mais c'est juste après que ça peut, s'ils en font trop parler partout, je pense que ça peut être négatif.
T'en penses quoi, toi, ça, Elise?
Je sais pas, c'est la vie de Tristan. Enfin.
Non, mais enfin, parce que moi je pense exactement l'inverse. Je pense justement qu'ils doivent en faire trop. Bah, ça passe par là, de banaliser en fait le truc dans le paysage de la société.
Bah, après, en fait, c'est les autres qui répondent qui en font trop, qui en font beaucoup plus. Et
Aussi.
ça fait que, bah, au final, ils ont plus de. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ils font un petit mouvement et ils s'en prennent plein la tête et c'est les personnes qui vont les discriminer qui vont recevoir du mérite ou quoi parce que bah, ils font ça en plus gros mouvement ou quoi et
Alors, moi, je pense que ça a été ça, effectivement, pendant un temps. Et en effet, le moindre petit geste, tu vois, de un peu extérioriser la chose, ils s'en prennent de toute façon plein la figure. De toute façon. Et ben, moi, je pense que plus ils en font, plus ça rentre. Ça passe par un peu une overdose un peu relou. Tu vois, effectivement, il n'y a pas une série sans un couple homo sur Netflix. Il n'y a pas un film où, voilà, où c'est un peu présenté. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu vas dire, c'est bon, quoi. Il n'y a pas que ça, ou il n'y a pas ça dans toutes les circonstances non plus. Mais l'idée, c'est que la démarche, moi, je l'encourage malgré tout, parce que plus tu montres ça, plus tu banalises ça, plus on va s'habituer à ça, et moins ce sera vécu comme une différence et comme un objet de haine, justement. Et en fait, effectivement, les gens, ils surréagissent quoi qu'il en soit. Donc autant en rajouter encore des caisses, parce que plus ça va aller, moins ils vont réagir. Et surtout, en voyant ce qui se passe maintenant, et de se dire que ça apparaît carrément sur les affiches de la Coupe du Monde de rugby. C'est dire que c'est en train de vraiment s'installer pour une meilleure inclusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'agression homosexuelle, ça ne veut pas dire que non plus tu es plus tué parce que tu es un homosexuel, parce que quand même on en est là hein, encore. Mais ça veut dire surtout qu'on s'habitue de plus en plus à voir cette image. Et c'est vrai que les surréactions, elles sont hardes, hein, elles sont hardcore.
Mais juste au moment de la venue du pape à Marseille, ça m'est pensé à une formule qui s'appelle Urbi et Orbi, justement, qui veut dire que le pape s'adresse à la ville et au monde. Et je pense que c'est ça, ces affiches-là. À Marseille, on n'était pas trop habitués, mais parce que nous, on est là, du coup, le socle d'une communication vers le monde entier, du coup, parce que c'est une coupe du monde du rugby. Donc même si à Marseille, on est surpris, c'est parce que c'est plus grand que l'histoire de la ville de Marseille, même que la France et les instances du rugby international qui veulent faire passer ce message-là. Après, c'est sûr que les minoritaires, ils ont intérêt à parler plus fort pour être entendus face à la norme et à la majorité. Donc c'est plus ça. Je comprends, hein, effectivement Tristan qui trouve ça un peu étonnant, ce militantisme en gros. Mais bon, c'est.
Ah, et puis je comprends aussi que même parfois on ait le sentiment qu'il y en ait trop ou qu'ils en font trop, tu vois. Mais moi, je pense que d'un point de vue plus global, c'est important qu'ils en fassent trop pour en avoir juste un peu.
Bien sûr.
Justement. Venez, on s'écoute un peu de musique, quand même, histoire qu'on en profite un petit peu. Je vous propose d'écouter Léon Fall, qui est un saxophoniste au départ, franco-suisse, en l'occurrence, qui est un mec génial, pour le coup, inclassable, et dont j'ai fait l'interview cet été, et qui sera bientôt diffusé sur Radio Emma. Et franchement, je vous le dirai quand ce sera le cas, parce qu'il faut écouter son parcours, c'est incroyable. Genre, ses parents, c'était des punks. Et en fait, maintenant, il fait du jazz, mais il fait aussi de la house, il fait aussi de la musique du monde. Enfin, il est inclassable. Il n'a surtout pas envie d'être classé, justement, en termes de musique. Et il a fait un featuring, une collab, avec un chanteur ghanéen qui habite en Angleterre et qui s'appelle KOG, Kog, pour Kweku of Ghana. Donc voilà, il s'appelle Kweku et il vient du Ghana et il le porte dans son nom de scène. Et tous les deux ont fait ce feat qui s'appelle Idila. Et je vous propose d'écouter ça. Ça fait partie du tout dernier album, en fait, de Léon Fall, qui s'appelle Stress Killer et qui vient de sortir le 15 septembre. Je sais pas si t'imagines la fraîcheur du truc, quoi. Allez, c'est parti. Il dit là, Léon Fall et Kog.
On the road, barren seas, I saw like a story untold. Pray for friends and foes lost in time ago. Sure, the flames have gone cold. Was days my soap, I rephrase the program. My flow reverse a cyclone. My river runs deep, so wild you can't keep. Don't judge the things you don't know. I'm here for your mind and your consciousness. The pros, the cons of the universe. I still do believe in balance, equality above all the luxury and the violence. In a spiral, contemplation. So caught up in the web of complication. Depression sets into motion. I'm in the bubble of a wild revolution.
Alors, pour la suite, en fait, il y a aussi. Non, mais c'est intéressant en même temps comme question, hein, ces choses-là, par rapport à. Et merci de les avoir soulevées, Tristan. Par rapport, en fait, c'est des changements de société, en fait. Je crois que pendant longtemps, on a imaginé que c'était une société où ces choses-là n'avaient pas leur place, tout ce qui était une différence, en général. Et puis finalement, Eh ben, les violences faites aux femmes avec l'affaire Weinstein, ça a fait un raz-de-marée planétaire. Les affaires d'homophobie, ça fait un raz-de-marée planétaire. Enfin, ouais. Disons qu'en tout cas, c'est en train de se mobiliser. Et surtout, toutes les affaires d'inceste et de viol au niveau de l'église, au niveau des trucs de sport.
Eh oui.
Enfin, c'est fou, quoi. Il y a comme ça énormément, énormément de choses qui ressortent au fil du temps, ces dernières années. Et les langues se délient, mais la société change. Alors, quand on est au cœur d'un changement de société, ça fait toujours un peu bizarre. Est-ce que vous avez ce sentiment-là d'être à ce carrefour? Est-ce que vous en rendez compte, je veux dire?
Est-ce que vous avez bien saisi la question, Tristan? Non. Voilà. J'avais l'impression que tu avais un regard un peu interrogatif.
Moi, je disais, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, la société, elle change? Est-ce que vous le sentez, ça, ou pas?
Ouais, ça se voit.
Non, mais ça veut dire, ouais, c'est vrai?
Ouais.
Sous quelle forme?
Je sais pas, la société, c'est les gens, en soi.
C'est l'ensemble des gens?
Oui, l'ensemble des gens. Ben, tous, non, mais certains, oui. C'est comme si, par exemple, t'avais une classe, t'avais deux classes, et bien il y en a une qui va évoluer par là, et une qui va évoluer par là, mais voilà. Ben, la société, elle change, mais sur différents points, et différentes personnes.
Des classes scolaires, tu veux dire? Des classes d'élèves, par exemple?
Ouais, c'est un exemple.
Ouais. Ouais. Mmh.
T'as à dire quelque chose, Élise?
Non, pas spécialement.
Est-ce que t'as ce sentiment, en tout cas, de voir que les choses bougent un petit peu sur certains sujets?
Oui, mais enfin si ça fait, enfin ça me fait du mal de voir toujours de la haine partout. Enfin c'est sûr que les choses elles avancent, mais il y a toujours de la haine pour je sais pas, une personne qui parle d'un sujet sensible et elle reçoit de la haine. Enfin ça fait mal, quoi.
Après moi je pense que les réseaux sociaux font pas que du bien à ce genre de mouvement. Même si après ça permet aussi les balances tempores et MeToo et etc. Mais là, quand on parle de violence aussi massive, brutale, c'est aussi toutes les possibilités par les réseaux sociaux, quoi, je sais pas.
Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Mais je peux poser une question à Élise.
Mais comment non?
Tu as l'impression, toi, de participer au changement de la société, d'être... Parce que la société a toujours changé, moi. Mais après, est-ce que c'est une accélération?
On peut pas les changer tout seul comme ça, mais par exemple je peux aider ma mère à comprendre un sujet qu'elle comprend pas ou quoi, et l'aider à, enfin déjà de mon point de vue par exemple sur un sujet qu'elle est pas d'actualité ou quoi, enfin que ce soit le mouvement LGBT, elle savait rien, elle m'a posé des questions, je lui ai répondu, et ça lui a enlevé des idées ou quoi, que ce soit sur ma tante ou ma grand-mère qui savait pas
qui sont LGBT.
Non
je plaisante.
Qui savait rien de tout ça et qui me pose des questions, bah ça me fait plaisir de savoir que je peux partager ce que c'est, et sans me faire réprimander ou quoi, enfin je sais pas comment expliquer.
Tu fais un peu leur éducation.
Ouais.
Sur ces questions là, j'entends.
Mais c'est extraordinaire. Je trouve que t'as complètement, alors là pour le coup, répondu au fait de participer à ce changement, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe. Il y a plein de gens qui ont des préjugés, des idées préconçues. Et on grandit aussi dans des modèles familiaux où ça passe à place non plus, ni d'en parler, ni d'en discuter même. Et du coup, le fait que ça puisse être un échange et que tu puisses apprendre autour de toi plein de choses autour de ce mouvement, ou autour de simplement cette acceptation-là, quoi, c'est énorme. T'imagines?
Oui, après on parle d'autres choses aussi. La dernière fois, on parlait par exemple de l'autisme ou quoi, et on en parlait... Enfin, elle savait pas grand-chose, alors que pour le coup, moi, je suis assez documentée sur ça. Et ça permet de défaire leurs idées reçues sur ce sujet, sur plein d'autres choses. Et enfin, je trouve que c'est important d'en parler. Enfin, après, c'est compliqué d'en parler avec des gens qui sont très fermés d'esprit, qui veulent pas en entendre parler. Mais pour le coup, quand c'est des personnes qui veulent en savoir plus, c'est cool, quoi.
C'est très exactement ce que j'allais dire, c'est que toi, tu as aussi la chance d'avoir une famille très ouverte d'esprit, prête à en discuter, à t'écouter.
C'est qu'un côté de la famille.
Bon, l'autre, en tout cas, c'est déjà cette partie-là qui est pas mal. Mais c'est-à-dire, c'est ta mère, ta tante et ta grand-mère?
Oui, après, il y a mes autres grands-parents, ils sont pas du tout ouverts sur ce sujet.
Voilà, ouais.
Ils sont, enfin...
Mais ce qui est en général plus classique, en vrai.
Oui.
Donc, c'est là aussi une chance, je trouve. que tu aies autour de toi, ta mère, ta grand-mère et ta tante, qui soient assez ouvertes pour écouter ce que tu as à leur dire, à apprendre de toi et à, du coup, peut-être, tu vois, revoir leurs opinions ou se créer des opinions tout simplement.
Oui.
Tu te rends compte? C'est énorme.
Après, j'en parle aussi à mon père et mon père, il me donne encore plus d'informations sur le sujet.
Ah,
je ne savais pas.
C'est vrai?
Oui.
Alors là, c'est lui, il est plus que ouvert, il est carrément renseigné.
Oui. Ça m'a surpris quand j'ai appris qu'il connaissait beaucoup plus de choses que moi sur le sujet.
Ah, c'est fou. Comment c'est venu la conversation?
En fait, c'était pour par exemple, je voulais faire un exposé sur la communauté LGBT pour mon brevet.
Mm-hmm.
Et du coup, j'étais en train de le faire et je lui posais des questions. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur ça? Et il me donnait encore plus d'informations. Rajoute ça, machin, sur ce pays, machin. Et du coup, ça m'a vachement aidé pour compléter mon oral, on va dire. Et ouais. Enfin, moi, je savais pas qu'il connaissait tout ça ou quoi.
C'est génial. Que ça vous ait permis en plus d'échanger là-dessus et de vous compléter. Enfin, tu vois, qu'il y ait eu ce truc-là de découverte aussi.
Oui.
Et lui, il a découvert des choses aussi avec toi par rapport à tout ça, à ta préparation, au travail que tu avais fait?
Je pense pas. Je pense qu'il connaissait déjà pas mal de choses.
D'accord.
Mais après, ouais, je lui apprends des choses. Enfin, des échanges d'informations qu'on a avec mon père. Et je peux lui apprendre des choses sur quelque chose que j'ai appris et... Lui, il m'apprend, je sais pas, sur... je sais pas comment expliquer, mais l'univers, comment ça fonctionne, tout ça. Vu qu'il est très dans ça. Il m'aide beaucoup sur tout ce qui est physique, tout ça. Et c'est pratique d'avoir quelqu'un d'autre, en dehors des cours, tout ça, qui nous apprend encore plus de choses.
Bien sûr.
Et ouais.
Bien sûr, c'est fabuleux. En plus, en particulier quand c'est un parent et un parent aussi proche. C'est carrément génial. En plus, je trouve que, je sais pas si c'est votre cas, mais ça peut enclencher des discussions... Et puis, du coup, une complicité. Et puis, du coup, c'est un moment partagé aussi qui compte comme souvenir.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, au-delà de tout ça, il y a vachement de liens aussi autour de ça.
Oui.
C'est cool, ça. Et ça vous a permis d'avoir des discussions, justement, et d'élargir au-delà de l'exposé et de la préparation.
Oui.
D'enclencher, tu vois, un dialogue.
Oui, sur plein de sujets. Juste comme ça, on peut enclencher des grandes discussions.
T'aimes ça?
Moi, j'aime bien les grandes discussions. Oui.
C'est cool. Eh ben, n'empêche, franchement, c'était court, mais c'était bien.
Ben ouais, intense.
Ouais, non, c'est vrai. Tristan, est-ce que toi, tout ce qu'on évoque là, c'est des choses qui te parlent? Est-ce que c'est le genre de discussion que tu arrives à avoir avec ta famille, tout ce qui peut être pas forcément que LGBT, mais sujet de société en général?
Ma sœur, quand j'essaie de lui parler, elle m'envoie me faire foutre. Ma mère, quand je suis à la maison, elle fait tout, n'importe quoi, donc j'ai pas le temps de lui parler. Mon papy, non. Mon papy, il est pas très ouvert, même pour parler en général.
Ouais.
Et mon père, je l'envoie se faire foutre, donc je vois plus personne de son côté. Donc voilà.
Donc en termes de discussion, c'est pas vraiment ça?
Non.
En termes de discussion de famille?
Je sais pas, il n'y a pas des sujets sur l'argent, sur le sport, sur l'écologie, n'importe quoi, des sujets sur...
Pourquoi l'argent? Pourquoi ça t'est venu comme ça?
Je sais pas.
L'économie,
parce que c'est
important,
des sujets qu'on peut aborder en famille.
Toi, j'ai des cours d'économie et gestion, moi, c'est chiant. Très chiant.
C'est pas ce qui te plaît le plus. Et est-ce que t'as des grandes discussions comme ça, mais avec des copains ou avec d'autres personnes?
Non.
Ouais.
Non, je sais pas. Genre, non, mais quand on parle d'un sujet.
Attends, rapproche-toi du micro, s'il te plaît.
Quand on parle d'un sujet comme ça, ils vont manquer de sérieux, ils vont faire des blagues qui vont être drôles, un peu racistes.
Mais hyper racistes, hyper sexistes.
Ouais, voilà.
Hyper, ouais, je vois très bien.
Le plus simple, quoi. Ouais,
voilà, c'est ça. Ouais.
Donc, non, c'est vrai que j'ai pas non plus le temps. Et les gens avec qui me poser pour parler de sujets comme ça.
Mmh. T'aimerais bien ou pas?
Je sais pas, ça pourrait m'occuper en tout cas.
Ouais, puis
passer le temps.
Même pas que. Disons que je trouve que ça ferait aussi travailler la tête, quoi.
Ouais.
Au lieu de ramollir le cerveau, tu vois, je veux dire, avec des choses faciles, que faciles. Pas que ce soit difficile, mais c'est intéressant de s'interroger aussi sur ce qu'on ressent. Parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi, qu'on évolue. Et que parfois on partait d'idées comme peut-être ta mère ou quoi, et qu'avec une discussion, les choses changent, quoi. On s'ouvre et tout ça. Eh bien, c'est ce que nous allons faire toute cette année à la radio. Et Tristan, je compte sur toi pour réfléchir à ces questions de société.
Ouais.
En tout cas, ça m'a fait bien plaisir déjà de discuter de ça et merci pour tout ce que vous avez dit parce que même en peu de temps, vous avez dit beaucoup de choses. Donc, vraiment très très chouette. Merci beaucoup. On va se quitter avec un hommage à Sinéad O'Connor qui donc nous aurait quitté il n'y a pas longtemps.
Ah, mais c'est sûr, malheureusement. Oui.
C'est triste.
On doit pouvoir le retrouver, mais il me semble que c'était au mois de juin.
Oui, donc c'est vraiment très récent, quoi. Ouais. Eh bien, qu'on lui rende hommage encore et encore avec sa musique. Parce que tu vois, l'intérêt quand t'es un artiste, c'est que tu laisses des traces.
C'est qui, en fait?
Alors, c'est une chanteuse irlandaise,
Irlandaise, qui a commencé sa carrière à Londres à 20 ans, qui est partie d'Irlande, qui a eu une enfance assez compliquée, difficile. Justement, on parlait du pape, elle avait des parents séparés, elle s'est retrouvée dans un orphelinat, puis je crois... de bonne sœur, quelque chose d'assez difficile. Elle s'en est plus ou moins échappée, puis elle est devenue artiste. Elle a eu cette carrière-là.
Ok,
merci. À quel âge
pour cette présentation?
56 ans.
Ah ouais, c'est jeune.
Carrément. Mmh. Non, elle était assez reconnaissable par ses grands yeux, mais elle avait surtout la boule à zéro.
Ouais.
Elle était rasée, et
elle
c'était
assez
rare.
Contestataire.
Ah,
assez,
tu dois avoir pas loin de son âge, toi, non?
Je suis un peu plus jeune parce que j'étais jeune adolescent quand je l'écoutais au tout début.
T'as failli dire ton âge.
J'ai fait un album qui s'appelait La Lune, je comprends.
Alors qu'il faut pas.
Ah, je le dis volontiers,
ah bon, il faut
mon
pas
âge, y a pas de... bon, c'est une convention, ah, c'est une convention, ça. C'est pas... De toute façon, quand on est ado, après 25, je pense qu'on est vieux, non? Donc, bon,
ouais.
Ceux qui ont plus de 25.
Tu dirais oui?
Ouais.
Ouais. Bah, tu vois.
Élise aussi?
Non, pas spécialement.
Tu es trop ouverte, Élise, il y a un problème.
Toi, tu dirais qu'on est vieux à partir de quel âge?
Attention,
je t'ai jamais écouté la question, mais j'ai dit ouais.
Mon père, il a 50 ans, enfin plus de 50 ans, il n'est pas vieux.
C'est vrai que quand on compare avec nos parents, souvent on révise la notion d'âge, quoi.
Mmh. Ah, mais il n'est pas vieux, mon père.
Non, mais dans la vie, tu pourrais te dire que 50 ans, c'est super vieux, puis finalement, quand tu connais ton père, tu te dis ah bah non, c'est pas si vieux que ça finalement.
Bah, pour moi, non, enfin, c'est pas si vieux que ça. Enfin, en général.
Moi, ah ouais, je pense entre 60 et 65, ça commence.
Ah ouais? Putain, en général, à votre âge, on voit la vieillesse beaucoup plus tôt que ça. Hein.
Moi, c'est ce que je pensais aussi. Ouais.
Et pour moi, on est jeune jusqu'à 30 ans, je pense. Après, entre 30 et 50 ans, c'est là où on joue notre rôle de parent. Et que du coup, on éduque nos enfants, on les fait grandir et tout.
Mais du coup, on est
après,
ni jeune
ils
ni vieux.
S'en vont. Et après, entre 50 et 60 ans, ben, je sais pas, il n'y a rien. Et après, 60-65... commencer à être vieux.
Quand on est grand-parent, éventuellement, alors c'est ça.
Même avant.
Avant.
Même si t'es pas grand-parent. Ouais.
Ah, c'est assez balèze, hein, comme analyse. Bien
j'ai l'impression que quand on est parent, on n'a pas d'âge. On est parent et puis c'est tout. C'est tout
oui.
Ce qui compte, c'est d'après ce que j'entends.
Bah, moi, j'ai jamais connu l'âge de mes parents avant que j'ai 14 ans, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça.
Je savais pas du tout leur âge avant.
Mmh. Bah ouais, bien sûr.
Ça compte pas.
Eh bah, ben, écoutez, en tout cas, nous, on va... Écoutez Sinéad O'Connor et Nothing Compares to You. Rien ne te vaut.
Bonne traduction.
Et c'était vraiment son titre phare et qu'on adore. Et du coup, ça va faire une petite plongée dans justement notre jeunesse. Allez, c'est parti. On se quitte avec ça. Merci pour tout. Et à la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci. Ciao. We'll be right back.
Tell me, baby.